With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ça, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Aujourd'hui, c'est la journée de la ménopause et comme ce sujet n'a pas encore été abordé dans le podcast, je me suis dit que c'était une bonne occasion de le faire à travers l'histoire de Sophie. Sophie a eu ses règles vers l'âge de 10 ans et si les femmes de sa famille lui expliquent que désormais elle peut avoir des enfants, il n'y aura pas plus de transmission sur ce sujet féminin hautement tabou. Pendant des années, Sophie aura peur de tomber enceinte sans être mariée car c'est dans cet ordre-là que cela doit se faire. Apercevoir ses règles chaque mois deviendra presque un soulagement. Puis, elle rencontre celui qui deviendra son mari et rapidement le projet bébé est en route. Les premières semaines, Sophie a des saignements réguliers et craint la fausse couche, mais finalement sa grossesse se passera bien. C'est à l'accouchement qu'il y aura des complications et elle subira une césarienne d'urgence. Impossible par la suite pour Sophie de faire un deuxième bébé après sa pré-éclampsie, alors les années passent, elle adore son rôle de mère et se dirige tranquillement vers un autre tabou féminin, la ménopause. Ce moment où les femmes n'ont semblerait-il plus toute leur place dans la société et pourtant mille questions sur les symptômes qu'elles découvrent. Alors après des doutes et une perte de confiance, pas question pour Sophie d'être mise au placard. Elle décide de faire toutes les recherches possibles sur la ménopause pour diffuser le message auprès des femmes, celui du chemin de la vie qui continue, libre, sans injonction de maternité. Bonne écoute.
Bonjour Sophie.
Bonjour Jane.
C'était pas préparé ça du tout. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Avec plaisir.
Alors toi, tu es la maman d'un garçon, d'un grand garçon maintenant. Quel âge il a ?
15 ans.
15 ans, ça y est,
ouais,
t'es dans l'adolescence.
Ado. Ouais.
Ouais, ça se passe bien.
Ouais.
C'est un peu corsé.
C'est l'ado. Ah ouais, non, c'est rock.
Ouais.
Rock and roll.
Alors, on va revenir, toi, bien plus en avant que ce que je demande habituellement dans les épisodes. Habituellement, je demande, juste avant de devenir mère, le regard que tu portais sur la maternité. Mais toi, on va remonter au-delà de ça. On va remonter à la période, l'arrivée de tes règles. Pour que tu nous racontes un petit peu, parce que c'est important dans ton histoire, vu qu'on va parler de la ménopause. Comment tu as vécu cette arrivée des règles ? Est-ce qu'on t'en avait parlé avant ? Tes parents t'en avaient parlé ?
Alors ma mère, ma grand-mère, ma tante, c'est arrivé quand j'avais 8 ans, parce qu'en fait ma tante donc, était enceinte de ma cousine, donc j'ai suivi tout le processus de la grossesse, etc. Et je me souviens bien que c'est ma grand-mère, le jour de la naissance de ma cousine, qui m'a expliqué que voilà, un jour j'allais avoir du sang qui coulerait, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Donc ça, c'était le jour. Après, j'ai été complètement auscultée par ma mère et ma tante au niveau de la transformation physique, hein, parce que j'ai été formée jeune, j'ai eu mes règles à 10 ans et demi.
Okay.
Donc très très vite, je suis devenue petite bonne femme. Mmh. Et donc j'ai été auscultée au niveau des poils, au niveau du pubis, au niveau de... Voilà, ça avait l'air d'être un sacré sujet.
Quoi. Ouais.
Et puis un matin, avant-dernier jour de mon CM2, je me suis levée et je suis allée aux toilettes. Et effectivement, j'avais mes règles. J'ai pas su si c'était... Enfin bon, j'ai compris que c'était les règles parce que toute la nuit, j'avais eu un mal de ventre, mais dingue. Donc je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je pensais que c'était l'appendicite parce que toutes mes copines passaient par l'appendicite. Donc j'étais là, oh merde, j'ai pas de bol. Parce que pour moi, appendicite, c'était cool, t'allais pas à l'école. Mmh. Donc là, j'étais là, oh waouh, c'est juste avant la fin de l'année, c'est dégueulasse ce truc. Et en fait, non, c'était mes règles. Voilà, donc je sais que j'en ai parlé à ma mère qui m'a donné des serviettes. Et chez nous, la coutume veut que, en fait, la mère ou le père te mette une gifle pour symboliser le fait que ça y est, Tu dois t'en rappeler parce que ça y est, t'es devenue une femme. C'est un jour extrêmement important, quoi. Donc, j'ai reçu une gifle de mon père. Ah, wow. Et puis, voilà. Et après ça, j'ai été réglée, mais vraiment, mais comme une horloge, tous les 28 jours. Ouais.
On t'avait expliqué à quoi ça servait ? Enfin, quel changement ça allait apporter à
ton... J'ai compris que c'était quand même que je pouvais avoir des bébés. Ouais. Puisque c'était le jour de la naissance de ma petite cousine. Enfin, de ma cousine. Je dis petite parce qu'elle était bébé, quoi. De ma cousine, qu'on m'a bien expliqué. Oui, et puis je me souviens que quand j'avais 5 ans ou 6 ans, j'étais fascinée, moi, par la naissance. Donc, j'avais reçu un bouquin où on voyait vraiment le bébé naître. Etc. Moi, la naissance, vraiment, c'était un truc qui me... Et qui continue hein, à me retourner le cerveau carrément. Je trouve ça dingue comme truc. Et du coup, oui, j'avais compris que c'était ça. Oui.
Ouais. Et alors, comment t'as vécu ce premier jour, cette claque
Ça, je sais que je suis allée à l'école. Mmh. Bon, j'en ai parlé à personne parce que j'ai pas dit à mes copines coucou, j'ai mes règles. Parce que en revanche, j'avais pas de vocabulaire pour ça particulièrement. Je pense que j'avais pas trop associé le truc. Mmh. C'est venu un mois après, quand même, l'histoire, quand j'étais en vacances avec ma copine Marianne, qui était bien plus âgée que moi, et que j'avais de nouveau mes règles. Et alors Marianne, qui était dégourdie, dévergondée, tout ce qu'on peut, m'a dit « Bouge pas, tu vas pas t'emmerder avec tes serviettes périodiques, je vais te filer un tampon. » Donc moi, j'ai dit « Mais c'est de quoi elle me parle, quoi ?» Donc elle m'a montré le tampon, elle a pris le tampon, elle en avait deux, donc elle a ouvert, elle m'a montré comment le mettre, elle m'a dit « C'est facile, tu vas voir, elle a tout mimé, tranquillou bilou. » Et puis elle m'a dit « Tu vas voir, ça va être beaucoup mieux. » Donc après ça, je suis allée me mettre un tampon, et voilà. Et ça s'est plutôt passé comme ça, par... je sais pas comment dire, c'était pas le sujet, c'était un sujet, mais je crois que j'ai mis du temps. J'étais une petite fille quand même, enfin 10 ans et demi. J'ai mis du temps à... Enfin, je réalisais, non, si quand même, parce que je réalisais ce que ça voulait dire, mais il y a plein d'images qui se télescopaient quand même. Quoi, ouais. Bon, j'avais un corps qui était formé, donc je faisais déjà beaucoup plus grande, malheureusement, je dirais que ce que j'aurais dû, et j'étais déjà une grande fille aussi, une grande femme. Quoi.
En taille.
Mmh. Donc, du coup, c'était un peu perturbant, ouais. Maintenant, ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est le putain de mal au ventre que j'allais avoir, et tous les problèmes, les seins qui gonflent, enfin, tout ce qui était lié au dérèglement hormonal, ça, on ne m'en avait pas parlé. Donc, ouais, parce qu'on te dit, voilà, c'est fait pour les bébés, enfin, tu vas faire ça, tu vas devenir femme, ça y est, c'est un grand événement, on ne te dit rien de plus, quoi.
Ouais. Comment t'as géré les douleurs
J'ai bien morflé. Les douleurs, et puis j'avais des règles abondantes. Alors, j'étais super bien réglée. Ça durait bien les 4-5 jours. Tout était nickel. Franchement, honnêtement, cycle super. Mais alors, j'ai bien morflé. Et règles bien abondantes, donc je me suis bien tachée. Ça aussi, par exemple, on ne m'a pas dit « Attention, tu peux te tacher. » Fais gaffe. Enfin, toute cette éducation-là, en tout cas, je n'en ai pas le souvenir.
Et rapidement, tes autres amis ont eu à leur tour leurs règles ou...
Eh bien, figure-toi que j'en sais rien.
On n'en a jamais parlé. C'est dingue.
Eh bien, non.
Ouais.
Alors, oui, bien sûr que j'imagine que oui. Parce que je les voyais bien, machin et tout. Mais, ben non, c'était pas du tout un sujet évoqué.
D'accord.
Ouais, non. Et tu vois, on ne s'est même jamais refilé une serviette, un tampon.
Elle restait discrète.
Non, mais c'est même pas discret, c'est que je crois que... C'est assez drôle ce que tu me dis, parce que je me souviens bien qu'on parlait de quoi des poils qui commençaient à pousser sur les jambes, donc tout ce qui était maquillage, s'épiler les jambes, coiffeur, petit talon, parfum, mettre ou pas du vernis à ongles, et quelle couleur, c'était subversif à mort, le mascara, enfin tous ces trucs-là, ouais. Les règles, non. C'est drôle, ouais. J'ai pas de souvenir du tout de ça, non.
Et alors, les années ont passé. Quelle relation tu as eue, toi, avec tes règles pendant ta vie ?
J'ai morflé énormément. J'ai morflé énormément, énormément. Vraiment énormément. Et j'ai eu un truc, c'est que j'avais très peur de tomber enceinte.
Ouais.
Très, très peur. De toute façon, c'est normal aussi, vu la façon dont on était relativement éduqués. C'est, si tu tombes enceinte, globalement, c'est une vraie galère, quoi. Enfin, faut... Parce que tu ne dois pas tomber enceinte hors mariage ou hors fiancée longue période avec promesse de mariage, etc. Ma grand-mère, elle en faisait une fixette. Enfin, c'était quand même un sujet, quoi. Fallait pas être une pute, quoi, en gros. Ouais. Voilà, donc c'était pas si simple.
Ouais. Tu avais des relations, tu avais toujours peur.
Tout le temps. J'ai toujours eu peur d'être enceinte. Mais jusqu'au moment où la ménopause a commencé à s'approcher, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. C'est une peur qui est restée jusqu'au bout, ouais.
Ouais. Et quel regard t'avais donc sur la maternité au fil des années? Donc t'avais ce regard-là, la peur de tomber enceinte parce que c'était pas forcément le bon partenaire, enfin en tout cas l'homme, pour une vie. Et est-ce que ça a changé un petit peu? Est-ce que t'avais une idéalisation
de la maternité?
De la maternité, du couple?
Oui, bah bien sûr. Bon, moi j'ai mis du temps, hein, puisque j'ai eu mon fils à 38 ans et demi. Alors pour moi, la maternité, c'était sacré.
Ouais.
Donc pour être mère, il fallait vraiment être prête et pouvoir apporter tout ce qu'il fallait à l'enfant. Et je n'étais pas persuadée que je serais mère, en fait, parce que je me disais, est-ce que je vais être d'abord, entre guillemets, un, à la hauteur de ce que j'estimais devoir être.
Ouais.
Deux, bah, j'avais envie de vivre ma vie, donc est-ce que je vais réussir à, voilà, à gérer. J'ai aussi mis du temps à rencontrer mon mari. C'est pas que j'avais pas de relation avant du tout, hein, mais j'ai mis du temps à me poser, à accepter de me poser, c'est plutôt ça, je vais dire. Donc du coup, pour moi, c'était waouh. Alors, il y avait une image que j'avais quand même dans la tête, c'est que je me voyais pas vivre non plus avec le break, les deux enfants, le chien, les beaux-parents à voir le week-end. Enfin, tout ça, c'était pas dans ma tête. Ça allait pas dans ma tête. Donc du coup, je m'étais dit, si c'est ça, avoir une vie de famille et être mère, enfin en gros, waouh, enfin je savais pas trop. Mais comme je le dis, j'ai toujours été fascinée par la naissance, les bébés, l'enfant qui évolue. Ça, c'est un truc qui me... Donc j'étais un peu pareil entre deux imaginaires, quoi. Ouais. Et puis un jour, bah, j'ai rencontré mon mari, voilà.
Ouais. Donc là, t'as quel âge quand tu le rencontres? 34
J'ai 36, 35, 36.
D'accord.
Très vite, on sait qu'on va avoir un enfant. Enfin, on est là, c'est une évidence. Et du coup, oui, il y a eu un épisode aussi que j'ai oublié de mentionner. C'est quand j'avais 30 ans, donc j'avais déjà des soucis gynéco, enfin, sans vraiment le savoir. Je commençais à avoir des fibromes. Mais en fait, l'échographe qui a fait l'examen m'a dit « Bon, vous, si jamais vous voulez un jour avoir un enfant, vous rencontrez quelqu'un, faites-le tout de suite. » Parce qu'en fait, vous avez là un vieillissement du tissu utérin. Donc, je ne sais pas garantir jusqu'à quel âge vous pourrez avoir un enfant. Ça peut très bien stopper d'ici un an ou deux. Enfin, en gros, maniez-vous, quoi.
Ouais.
Dans ma tête, je ne m'étais pas dit « Il faut que j'ai un enfant absolument. » En fait, je m'étais dit « J'aurais pas d'enfant. »
Ah, d'accord. Ok.
Au moins comme ça, j'étais pas dans le truc, mon Dieu, l'enfer. Je savais que je voulais pas d'enfant seule, je me sentais pas à la hauteur. Ça, c'est parce que j'avais vraiment une vision assez idéalisée et idéale. Et puis je voulais avoir un enfant avec quelqu'un avec lequel je ferais ma vie aussi. Et du coup, donc ça, c'est aussi important de le dire. Et donc, quand j'ai rencontré mon mari, très vite, ça a été une évidence. Et puis, je suis tombée enceinte, combien de temps? Même pas un an après la rencontre, quoi.
D'accord.
Ouais.
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 Tu pensais tomber enceinte aussi rapidement?
Alors, non, j'avais vu une gynéco qui m'avait prédit que ça ne m'arriverait pas au minimum avant un an. Mais alors, vraiment, un an, déjà, j'aurais de la chance. Et puis, même pas 4 mois après, c'était youhou, voilà. Donc, du coup, là, c'était le bonheur total.
Ouais.
Ah ouais, là, c'était l'euphorie. J'ai le nuage total, j'en suis pas revenue d'ailleurs. Ouais. Enfin, je me sentais magnifique, super belle, invincible. Enfin, c'était grave, quoi. Superwoman à côté, c'était, enfin, Wonder Woman, c'était rien du tout. J'étais, mais splendide.
Ouais.
Ouais, un combo entre Wonder Woman, Farrah Fawcett. Enfin, voilà, quoi, ça matchait bien. Un début de grossesse difficile. Parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Et après, une fin de grossesse très hard.
Alors, quand tu perdais du sang au début de ta grossesse...
Du coup, on ne me l'a pas expliqué. Pourquoi?
Tu allais consulter, mais on te dit...
Au tout début, parce que quand j'ai vu mon médecin, tout de suite, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai fait le test, je suis allée la voir direct. Et elle m'a dit, écoute, à ton âge, c'est toujours une question, parce que j'étais dans une grossesse gériatrique, entre guillemets, hein, 37 ans et demi. On commence à te dire, bientôt 38, ma fille... Première grossesse, t'accroches pas, te fais pas d'illusions, tu vas faire une fausse couche. Donc quand j'ai commencé à perdre du sang 3 jours après, elle m'a prévenue, elle m'a dit, c'est ce que je t'avais dit, t'accroches pas. si jamais ça part, bah voilà ce qu'il faut faire. Et si ça va pas, tu vas aux urgences, etc. J'habite à côté d'un hôpital, donc elle m'a dit voilà quoi faire. Et en fait, quelque part, je me suis accrochée, je suis restée allongée, etc. Et puis 10 jours après, rebelote, j'ai perdu du sang, pas mal de sang. De nouveau, j'ai rappelé le médecin. Elle m'a dit, bah, allons, enfin voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mmh. Et en fait, bah, mon fils s'est accroché, moi aussi. Hein. Mmh. Donc j'ai eu un petit dialogue avec lui. En fait, je lui ai dit, écoute, si tu as envie de partir, pars maintenant, parce que moi, je ne peux pas... Enfin, ouais. Je joue pas les montagnes russes parce que là, moi, je suis déjà folle de toi. Donc, soit tu t'en vas, soit voilà, parce que là, moi, je peux pas. Et tout en sachant que je m'étais dit, waouh, est-ce que j'aurais le... Enfin, j'avais vraiment l'impression de perdre quelqu'un déjà. C'était énorme comme sensation. Et puis, bah, voilà, il est resté. Donc. Mais j'ai fait gaffe toute la grossesse. Hein. J'ai pas voyagé, je faisais attention à tout. Ouais, ouais. J'ai tout refusé, ouais.
Donc, un peu stressant quand même.
Non, c'était pas un stress. Je m'en occupais bien. J'étais en relation avec lui, je savais que je devais m'en occuper. Enfin, il s'était accroché, c'était canon. Et c'était vraiment un moment à soi, à nous, quoi, ouais. Particulier, mais où j'étais en charge d'eux, quoi. Mmh. Voilà.
Et tu disais que la fin de ta grossesse avait été l'horreur. Périlleuse aussi.
Bah ouais, l'horreur. Donc là, on arrive à pratiquement le début des 9 mois, pile le jour des 9 mois. Enfin, un peu avant, hein. Donc 8 mois et demi, où je commence à sentir des douleurs dans le dos et des douleurs un peu dans le bas-ventre. J'avais commencé à regarder mon Laurence Pernoud et qui mentionnait l'idée d'un faux travail. Donc je me suis dit, si ça se trouve, c'est ça. J'ai pas eu de chance parce qu'en fait, au niveau de la maternité, normalement, il y a un suivi tous les mois pour faire ce suivi. Et entre le mois, j'ai accouché au mois... Normalement, je devais accoucher en juin, mi-juin. Le mois d'avril, il n'y avait pas de suivi, enfin ils étaient débordés, donc j'ai sauté deux mois de suivi. Pendant ce temps-là, j'ai gonflé, j'étais carrément mal. Et quand je suis arrivée pour la consultation, le jour où je rentrais vraiment dans le 9e mois, là, la sage-femme m'a dit j'avais vraiment tous les symptômes de ce qui m'est arrivé. Hein. Mmh. Mais elle m'a dit, non, vous êtes stressée, parce que manque de bol, elle a pris ma tension artérielle qui était normale. Et elle m'a dit, non, vous êtes stressée, reposez-vous, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, nos soussailles. Et puis, j'ai vu l'anesthésiste pour préparer la péridurale, etc. Je bossais encore, j'avais en fait mon client qui m'attendait dans le café d'à côté de l'hôpital pour continuer les réunions de travail, après ça. Je suis rentrée me coucher et puis 2-3 jours après, j'ai appelé une de mes copines en disant « Écoute, ça va pas, j'ai une impression bizarre, quoi. » Et là, elle m'a dit « Écoute, si vraiment tu te sens pas bien, j'étais épuisée, tu vas à l'hôpital et puis tu verras bien. » Et puis, je suis jamais ressortie. En fait, j'ai fait une pré-éclampsie et une complication de la pré-éclampsie. J'ai fait un HELLP syndrome. Alors pour expliquer, il faudrait avoir un gynéco, mais en fait c'est vraiment le placenta, c'est un dysfonctionnement du placenta, mais la conséquence de ça, c'est que en fait on a les reins qui peuvent commencer à se bloquer, donc on prend de l'eau, moi j'avais fait de l'œdème, etc. Et puis enfin ça peut finir quand même en hémorragie interne et puis par la mort surtout. Hein. Enfin, donc la conséquence, c'est qu'il faut sortir le bébé tout de suite pour sauver la mère. La mère n'est pas sauvée pour autant pendant au moins 8 jours. Ça peut intervenir bien plus tôt. Ça a un risque d'intervention à partir de la 20e semaine. Et oui, une des conséquences, c'est une hypertension très forte. Ouais. Donc, ça commence par la toxémie gravidique. Quand je suis rentrée, ils m'ont dit que j'étais en toxémie. Suite à ça, ils m'ont dit pré-éclampsie, ils sont venus me chercher parce que j'étais en HELLP syndrome. Et là, je suis partie accoucher. Voilà, ils ont essayé de le déclencher. Ça n'a pas fonctionné, mais très vite, ça a été anesthésie générale pour sortir l'enfant. Parce que,
Par césarienne,
parce qu'on était en galère, moi, très en galère. Et mon fils commençait à avoir un rythme cardiaque qui baissait, donc il fallait aller en urgence, évacuer les troupes. Voilà.
Comment t'as vécu, toi, cette césarienne d'urgence ?
Trauma total, parce que... Enfin, moi, j'étais sûre que j'allais mourir. Mm. Parce que... le truc, c'est que tu sens l'urgence. Alors déjà, c'est le grand professeur. Ils ont dépêché le grand prof de l'hôpital pour venir m'accoucher, qui s'est pointé à toute vitesse.
D'accord.
Donc déjà, je me suis dit... Ouais. ça pue. Après, tu vois les mecs qui te... Parce que bon, ils m'ont balancé du brancard, enfin, ils m'ont mis du brancard à la table. Et tu sens les regards, en fait. Il n'y a pas un mot, hein. Très peu. Mais tu sens les regards, les gestes, etc. Et tu sais qu'il faut aller vite. Ils sont installés avec le champ pour pouvoir ouvrir. Et en fait, ils m'avaient quand même fait la péridurale. Mais moi, pendant la péridurale, j'étais sûre que de toute façon, ça ne servait à rien. Je leur ai dit, mais je sais que ça ne sert à rien. Et comme je suis très résistante à l'anesthésie, quand ils ont commencé à ouvrir, j'ai senti. Donc, je leur ai dit, allez-y, parce que moi, je savais que c'était une question de minutes. Hein. Enfin, j'ai dit, c'est pas grave. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on va vous endormir. Et après, j'ai lâché, ouais. lâché prise. Mais en fait, j'ai prié juste avant de partir, quoi, puisque mon père est décédé. J'ai dit à papa, écoute, si tu dois... Enfin, sauve mon fils, parce que lui, il a toute sa vie... Moi, j'ai fait... Enfin, mais sauve mon fils. Et je pensais que c'était fini. Ouais. Donc, je suis partie en pensant que c'était fini. Mmh. Voilà. Donc... Le réveil, là il y avait mon fils qui était dans les bras de mon mari. Je crois que j'ai halluciné complet. Je l'ai regardé. C'est drôle, hein, c'est parce que là du coup, c'était la première rencontre, donc je l'ai regardé. On me l'a posé. Bon, moi j'étais encore en observation, hein, avec le monitoring, tous les machins, tous les trucs.
Déjà là, toi tu te réveilles, tu te dis ok, je suis vivante et en plus t'as ton bébé.
J'ai pas eu le temps de me dire, je savais pas où j'étais en fait, je crois. Ouais. Donc, mais j'ai mon bébé, je l'ai regardé, j'ai pleuré tout ce que je pouvais, ouais, parce que là c'était. Ouais. Je sais que j'ai quand même téléphoné à mon assistante, j'avais plus de voix parce qu'il m'avait.
Intubé.
Donc je dis, ah, il est là. Enfin voilà, parce que c'était genre ouf, mais il y a encore quelques heures, parce qu'il était bien arrivé, bien avant la prévision. Voilà quoi. Et puis après, en fait, on n'était pas mariés avec mon mari. Je l'ai demandé en mariage à ce moment-là.
Ah, donc tu avais fait un enfant hors mariage finalement.
Je voulais pas. Non, là j'ai fait le truc. Ça m'avait. Mais oui. En fait, j'avais été disruptive. Et là j'ai dit non, mais là enfin en gros c'est pas possible le truc. Non, j'ai demandé en mariage à ce moment-là, ouais, enfin j'avais plein d'images qui se télescopaient et mon fils qui s'accrochait, tout ça, enfin c'était énorme comme émotion. Ouais. Sur le coup, ça a été après l'accouchement, 3 jours après, enfin j'avais du mal à réaliser, je pense que j'avais du mal à mettre des mots, des émotions. Et 3 jours après, j'étais tranquillement dans ma chambre avec le monitoring permanent parce que, comme je dis, c'est très dangereux.
Hein. Oui, il faut même après, surveiller, bien sûr.
Et donc, j'avais mon petit monito là. Et puis, à un moment donné, pour la première fois, je commence à exprimer une émotion, je commence à pleurer. Et là, j'entends bip, bip, bip. Et tout le monde qui arrive dans la chambre. Et là, je dis, non, mais attends, c'est dégueulasse, quoi, pour une fois que je pleure. Attends, je... Parce que... Et là, ils m'ont dit, non, mais là, c'est là, faut tout arrêter. Enfin, donc, j'ai arrêté de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai dit, bah, tu peux bébé. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas. Enfin, là, ça y est,
oui, t'es coupée. C'est la chute d'hormones aussi.
Oui, troisième jour, on est un peu là-dedans, quoi. Voilà. Et puis, bah, il y avait quand même une naissance très choc, quoi. Et là, ils m'ont dit, non, mais là, vous êtes à 24,8. Enfin, j'étais très, 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 très haut. Donc, ok, il faut tout arrêter. On arrête le portable, on arrête les visites, on arrête tout là. Il faut se calmer là. Enfin, là, sinon. Ok, donc c'est là où je comprends que c'est quand même une. Ça dure, le Epps syndrome, c'est pas le truc qui, une fois qu'on a sorti l'enfant, voilà, parce que ça, pareil, on me l'a pas dit.
Ton bébé, il était dans la chambre avec toi ou pas?
À côté.
Ok.
Ouais. Bah oui, il m'a pas lâché. Et du coup, bah voilà, là, il a fallu que je descende un peu. Mais il faut dire que j'avais beaucoup d'appels, j'étais très sollicitée, etc. Donc du coup, voilà. Mais je sors de là, avec le coup quand même, je peux dire c'est un trauma, ça reste quand même quelque chose de difficile, quand même. Mais le bonheur total, parce que j'ai mon fils, donc qui est le meilleur, le plus beau, plus bel enfant, qui a été un enfant hyper facile.
Ouais. T'es restée combien de temps à la maternité?
Alors je suis restée une semaine, mais il voulait me garder plus longtemps. Mais moi j'ai dit je préfère rentrer à la maison, ouais.
Et alors, le retour à la maison, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Ouais, très vite.
Ouais.
Ça a été assez rapide. Le seul truc qui me faisait flipper, c'était lui faire prendre le bain. C'est mon mari qui a géré ça. Sinon, non, ouais, à l'aise.
Ouais. Tu l'as allaité ou pas?
Bah, interdiction totale, de toute façon. Ça aussi, c'est assez magique parce que j'avais des médicaments forts. Et voilà. Donc, du coup, c'était... Et ils n'ont même pas pu me donner, à cause de ce que j'avais, le médicament qui stoppe les montées de lait. Pareil, redialogue avec mes seins, parce que là, j'étais là, j'avais trop à gérer. Hein. Enfin, je veux dire... Donc, pareil que j'avais fait avec mon fils quand il était dans mon ventre, je parle avec mes seins. Et là, je dis à mes seins, bon, écoutez, les mecs, là, enfin, les meufs, enfin, ce que vous voulez, quoi. Je vous aime vraiment, vous êtes canon. Si vous pouviez m'éviter ça, parce que là, j'ai déjà trop de choses à gérer, mon corps. Enfin, là, je pense qu'au niveau douleur, au niveau de tout gestion, mon cerveau n'y arrivera pas. J'appelle ma mère et je lui dis, écoute, tu vas me prendre un Playtex cœur croisé. Non, c'était la pub quand j'étais enfant, mais je dis, ah, tu me prends et une taille en dessous, enfin, faut serrer, quoi. T'arrives tout de suite.
Okay.
Donc elle part à Monoprix, elle me prend les soutiens-gorge, j'ai pas quitté les soutiens-gorge, donc ça me faisait des seins de folie. Et du coup, pas de montée de lait, waouh. Donc non, j'ai donné le biberon.
T'avais pas envie d'allaiter à la base?
Non, de base, ouais non, parce que déjà je m'y voyais pas, de toute façon je travaillais à mon compte, je savais pas trop comment gérer. Et ensuite je m'étais dit, c'est peut-être un peu con, mais je trouve ça un peu dégueu pour le père, enfin... Parce que c'est bien que lui prépare... Enfin, moi, je me suis dit, je l'ai eu pendant ce que j'imaginais 9 mois à la base. Et le rapport à la nourriture, que lui prépare quelque chose, donc le biberon, qu'il le prenne, que si, que ça. Je trouvais que c'était bien, quoi, que ce soit un rôle partagé. Et voilà. Donc, ça a été biberon direct. Et puis, bonheur total, quoi. Enfin, je veux dire, là, il n'y avait pas de mots, ouais. C'était trop beau.
Donc là, t'as quel âge?
Donc là, j'ai 53. J'ai 54 dans...
Oh non, pardon, au moment où tu...
Ah, là, j'ai 38 et demi.
Là, t'as 38
et demi. Oui, là, j'ai pas 54 ans. Parce que sinon, là, ça aurait été un vrai cas. Hein. Ouais, alors là, je viens juste, cette première, je suis tombée enceinte tout de suite, au bout de 4 mois. Les gynécos m'ont dit que je n'y arriverais jamais. Non, là, j'ai 38 et demi, ouais.
Ouais, là, t'as 38 et demi, donc tu profites de ta maternité.
En bossant, donc, ouais, parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, en fait, mon fils était avec moi tout le temps, dans le taxi, je le changeais sur les tables de café. Enfin, non, on a bourlingué.
Ouais.
Mais... ouais, c'était l'apothéose. Enfin, franchement, honnêtement, c'est un grand amour, quoi.
Ouais. Ouais. Et alors, quand les années passent, est-ce que tu as un projet de faire un deuxième bébé?
Non, même pas là. Justement, quand je te parle de la peur de grossesse,
ouais.
Il n'en est même pas question. D'abord parce qu'on m'indique que la deuxième fois, déjà, je vais être sous surveillance maximum, qu'il est fort probable que je commence la grossesse, enfin, que je fasse toute la grossesse allongée sur le côté gauche, avec de l'aspirine, et que je risque de perdre l'enfant au bout de 5 mois, la 20e semaine.
Ok.
Je me dis, non. Enfin, oh non. Vraiment, non, mais j'étais heureuse d'avoir mon fils. Non, mais c'est déjà tellement un miracle. Je suis plus... je remercie pour mon miracle, quoi. Je me dis, voilà, on est là tous les deux. On a été sauvés des eaux, clairement, c'est le cas de le dire. Non, je ne vais pas retenter l'histoire. Alors, j'avais une gynécologue qui me disait, parce que je prenais une pilule microdosée, qu'il fallait que je fasse bien attention à la prendre toutes les 3 heures, qui a essayé de me changer de pilule en me disant que là, j'allais pouvoir avoir un temps, c'était une pilule dernière génération, un temps plus long, quoi. Et à un moment donné, elle me dit, parce que vous vous rendez compte... Si vous risquez de tomber enceinte, etc. Parce qu'elle m'a dit, vous savez, moi, c'est arrivé à une de mes patientes, etc. 42 ans et tout. Et là, je lui dis, si je tombe enceinte en même temps, je tombe enceinte. Parce que je ne me voyais pas avorter non plus. Alors, donc, c'est un gros dilemme.
Ouais.
Donc, l'enfer total. J'ai flippé. Là, j'ai flippé. Ouais. Je me suis dit, si je tombe enceinte, comment je gère?
Ouais, ça a dû être la pression pendant les rapports.
Ouais. Ouais, la pilule, je faisais super attention, j'ai vraiment peur. Ouais. Parce que là, c'était pas le risque de tomber enceinte, genre, je savais que je n'avorterais pas, je me voyais pas du tout avorter, je me voyais pas en avoir un deuxième, et même dans l'organisation, par rapport à tout le travail que j'ai, etc., et voir déjà comment c'était dur de gérer Joe, enfin, vraiment de tout gérer, je me suis dit, je vais péter les plombs, Donc, c'est assez bizarre, hein, comme sentiment. Ouais.
Donc ça a duré pendant combien de temps
Longtemps, parce que finalement, jusqu'au moment où j'ai eu 47. Je dois dire d'ailleurs que quand j'étais enceinte et que j'ai pas eu mes règles, j'étais contente.
Ouais.
Voilà. Je les retrouvais pas, c'était cool. Ça m'a pas manqué.
Ouais. Hein,
donc 47 ans, 46-47, là, je commence à avoir des trucs un peu bizarres, des règles marron, foncé, voire noir, enfin, vraiment très foncé, qui arrivent en milieu de cycle, donc inattendu, et puis des douleurs au niveau du ventre terribles, et puis d'un coup, je me mets à saigner, ça s'arrête pas. Donc là, je vais voir le gynéco en disant, c'est bizarre, c'est pas normal. Et pourtant, les cycles restaient réguliers, mais en même temps, j'étais sous pilule, donc voilà,
oui.
Complicado. Hein. Et là, le gynéco me dit, bon, il y a un risque de cancer de l'endomètre, là, parce qu'il regarde l'endomètre. L'endomètre était épaissi bien plus qu'il n'aurait dû. L'endomètre, c'est la muqueuse, enfin, ce qui recouvre, la paroi utérine. Et du coup, il me dit, bon, déjà, je vais vous mettre sous une autre pilule, enfin, etc. Une et deux. On va voir ce qui se passe. Rien ne change. Donc là, il me dit, bon, on va faire une biopsie, parce que là, faut, voilà, on curette aussi, on va cureter. Et normalement, vous devriez plus saigner, ça devrait aller. Bon, là, il fait tout ça. Biopsie, heureusement, tout va bien. En revanche, le curetage, ben, ça continue de saigner. Donc là, il me dit, normalement, on devrait passer à l'hystérectomie. Parce que là, je vois pas comment on peut gérer le truc. Mais comme je suis à mon compte, je lui fais ça pue, parce que là, j'ai pas le temps de m'arrêter. Hein. Je veux dire, et là, il me dit, bon, bah, on a une solution, c'est la ménopause artificielle. Donc je dis, bah, ok, banco. Enfin, moi, c'est une piqûre. Hein. Pour moi, c'est juste une piqûre. Donc, donc voilà. Et j'associe pas ça pareil à la ménopause, parce que finalement, je me rends compte en parlant avec toi qu'il y a plein d'images qui sont venues au moment des règles. Enfin, tu vois, j'associe pas les choses. Bon. Il me fait l'ordonnance, et puis je vais tranquillou voir l'infirmière, et puis elle me fait la petite piqûre, et puis voilà, quoi. Je sais quand même que j'ai écrit dans mon carnet que c'était le premier jour du reste de ma vie, parce que, en fait, il m'avait dit, vu votre âge, 48, 47 ans, vous n'allez pas tarder à être ménopausée, donc de toute façon, si ça fonctionne, je vais garder le traitement jusqu'à la fin, puis jusqu'au jour où vous serez ménopausée, quoi. Donc, pour moi, ça y est, c'était fini, j'avais plus mes règles.
Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la ménopause ?
Non.
Oui.
Non.
Comment ça...
Je connaissais le mot.
Oui.
Mais j'avais rien, pas une image. Le mot n'évoquait ni son, ni odeur, ni image, rien. Rien dans ma famille, que dalle. Rien de chez rien.
Bah oui. Et quand on te dit, on te parle de ménopause, comment
tu... Je sais que c'est la fin des règles pour moi.
Oui.
C'est tout ce que... Et la fin de... Bah, quelque part, c'était une libération, parce que t'as plus tes règles, t'es plus enceinte. Je m'étais dit, j'aurais plus mal au ventre. Donc, dans ma tête, c'était ça. Donc,
ouais.
Globalement, coolos. Donc, j'ai rien de plus.
Ouais. Et avec le rapport à l'âge, comment tu...
Non, bah, j'associe pas ça à l'âge du tout, parce que pour moi, c'est gynécologique.
Mm.
Enfin, dans ce moment-là, tu sais, déjà, l'âge, mon curseur a bougé, parce qu'à partir du moment où j'ai eu mon fils à 38 ans et demi,
ouais.
Ça veut dire que, par exemple, quand je l'amenais à la crèche, puis à la maternelle, à l'école, etc., j'étais avec des femmes qui avaient mon âge, mais des femmes aussi beaucoup plus jeunes, mais j'étais une jeune maman.
Mmh.
Donc, dans ma tête, j'étais une jeune maman, ce qui était vrai. Plutôt jeune aussi dans ma manière de voir les choses, de vivre, d'être dans la vie. Donc, pour moi, l'âge n'existait pas. Dans l'histoire, c'est bizarre, mais... Enfin, tu vois, il n'y avait pas d'association.
Ouais.
La seule chose, c'est que... Il y avait quand même une association autour de moi. C'est-à-dire que... ça y est, je commençais à avoir... Moi, j'ai assumé mes cheveux... poivre et sel, même avant Sophie Fontanelle, je crois, ou même au même moment. Et je commençais dans mon milieu professionnel à visiblement ne plus savoir toucher les millennials. J'étais plus trop intéressante. Donc, en fait, là, j'en me le faisais sentir. C'est pas moi qui le sentais, c'était vraiment la vision du dehors. Donc, je te dis, je sors de chez l'infirmière, tranquille au bilou, puis je m'installe dans le salon, je bosse tranquille. 15 jours après, je me retrouve sur le canapé blanc que tu as vu dans le salon, parce que rien n'a bougé, on n'a pas eu le temps de changer le canapé depuis, dans un état mais proche de l'Ohio.
Ouais.
Donc complètement recroquevillé, mal partout, même mal dans le cœur, une sécheresse vaginale au plus haut point, des bouffées de chaleur qui commençaient à arriver. Alors elles étaient assez comiques parce que chez moi elles n'arrivaient pas sur le devant, en général c'est le devant, mais à l'arrière là, c'est comme si je m'étais collée au sèche-serviette. Donc je me disais, c'est super bizarre, les sueurs nocturnes, on n'en parle pas. Enfin bon, l'enfer total.
On t'avait prévenu des...
Non.
Des symptômes.
Ah non, mais lui, il m'avait juste dit, bon, bah, je vous passe en ménopause artificielle. Point. Donc, mais pour moi, c'était une piquouse. Il y avait pas de... Mais tu sais, tout comme on ne prévient pas que pendant quand tu vas avoir tes règles, tu vas avoir les seins qui vont gonfler, le ventre qui va gonfler, mal au ventre, tu peux avoir un SPM, que tes cheveux peuvent ou être super... Bah, c'est les hormones, tout ça, on ne te le dit pas. Donc là, pareil, on ne m'a rien dit. Donc là, bah, je googlise parce que je me dis, oh, putain, c'est quoi ce truc?
Oui.
C'est quoi la ménopause? Parce que... Et c'est bizarre parce que je me rappelle que j'avais même à peine associé ça à bouffée de chaleur. C'est-à-dire que dans mon cerveau, les connexions ne se faisaient pas avec cette histoire-là.
Mmh.
Et là, bah, je tombe sur, je ne sais plus quel site, enfin, les sites à l'époque, hein, il y a 5-6 ans. Et là, je vois un vocabulaire médical 100%, que du symptôme, symptôme, symptôme. Voilà, donc c'est très froid. Soit tu as le médecin avec pas le stéthoscope, parce que là, ce serait un peu con, mais sinon, des images de femmes assez altérées... bah, toujours poivre et sel, mais quand même plus de 60-65 ans. Enfin, rien de vif, rien de vibrant, rien de joyeux, rien de youhou, quoi. Là, je me dis, merde, je suis rentrée où, là?
Ouais.
Là, ça y est, tu sens que tu passes... enfin, d'un coup, tu sais, parce que moi, c'était très brutal. D'un coup, je quitte une sphère pour rentrer dans une autre et je sais pas.
Ouais, t'as pas de transition.
Ah non, no transition.
Tu sais pas où tu
Lost
débarques.
In a translation. Et là, je sais pas où je débarque et surtout, j'ai pas envie d'y aller. Hein, parce que ça m'intéresse pas d'être dans le symptôme, moi, je veux dire. Donc, oui, de n'être que symptôme, j'entends par là.
Et c'est 24 heures sur 24
ouais, j'étais, moi, j'étais vraiment. J'ai eu des effets indésirables. Alors, le mieux, le clou du clou quand même. Parce que si le traitement avait marché, ça aurait été super. Mais effet indésirable maximum et je me remets à saigner.
Ah oui, d'accord.
Donc là, j'appelle le gynéco, je lui dis, bon, écoutez, c'est bien, mais d'abord, un, ça ne marche pas. Et de deux, je suis allée voir le médecin traitant d'abord en disant, j'ai très mal dans le cœur. Donc le médecin a dit, de toute façon, il ne faudra jamais refaire une deuxième piqûre. C'est impossible. On a vérifié que je n'avais pas une crise cardiaque ou autre, mais il m'a dit, non, on ne fera jamais, il ne faut jamais refaire ça. Donc déjà, ça, c'est occulté. Et surtout, le traitement ne marche pas. Donc...
retour à la case départ.
Et retour que bah, je reviens, femme, 47 ans, avec ses règles, etc. Ouais. Bon, là, le médecin me dit, bah, il n'y a pas d'autre solution que de faire l'hystérectomie. Parce que j'ai pas de choix. Donc, on programme l'hystérectomie pour les grandes vacances, parce que c'est le seul moment où je peux m'arrêter. Donc, voilà. Et sauf que là, je fais juste avant de faire l'hystérectomie... une bronchite asthmatiforme bien comme il faut, donc impossibilité d'être anesthésiée, donc l'hystérectomie est reportée. Là, le médecin me dit, reposez-vous, le gynéco, reposez-vous, passez les vacances, on verra bien. Et là, je ne sais pas par quelle magie, les cycles sont revenus normalement. J'ai arrêté de saigner tout le long. Peut-être que c'était de voir la mer, j'en sais rien. et ma vie a repris son cours.
Oui.
Ça a été ma première rencontre avec la ménopause. Elle a été tellement forte que j'ai, là, j'ai reçu un peu comme l'accouchement, un truc preview maximum. Et là, j'ai commencé à écrire. Du coup, je te montrerai les cahiers tout à l'heure. J'ai commencé à écrire un cahier, deux cahiers, trois cahiers. D'une part, sur ce que j'avais ressenti d'abord. Ensuite, sur ce que j'avais vu sur ce site internet. Et ensuite, sur tout ce que ça m'évoquait. Donc, tout ce que j'avais envie de rechercher. Et là, je me suis rendu compte que bah, je recherchais un maximum parce que ce qui était présenté sur les sites, bah, globalement, c'était pas moi, c'était pas ça. C'est pas ce que j'avais envie de lire, c'est pas ce que j'avais envie de faire. C'est... Voilà. Et comme, conjointement, au niveau du boulot, je sentais que ma vie allait aussi tourner. J'entends que tout ce que j'avais fait avant, ben, on parlait des millennials, donc moi, j'étais plus dans la... Enfin,
c'était plus bizarre. Dans le coup, quoi.
Ouais, c'était bizarre, parce que moi, je me sentais quand même toujours, pas millennials, mais avec un esprit millennials. Donc, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait une scission. Mais on me faisait comprendre que j'étais peut-être dans le coup, mais de toute façon, toutes les choses se mettaient en place autrement. Donc, tout ce que j'avais créé n'était plus d'actu, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, ok, ben, break.
Et j'ai c'est fait... dur, ça. Comment tu l'as vécu
Mal. Hein.
Bah, oui.
Bah, là, j'ai eu l'impression vraiment, bah, un peu comme quand j'ai eu la piqûre, le même choc. Tu pleures ta vie passée, tu sais que c'est fini, c'est terminé. Tu te dis une chose, c'est... putain, ça a été aussi court que ça.
Ouais.
Parce que tu te rends pas compte que... Parce qu'on est tellement dans le rush. La vie passe vite. Et tu te dis, mais surtout, grand champ devant, je vais faire quoi maintenant ? C'est là où grand champ devant, j'insiste sur le grand champ. Je me suis pas vue là pendant seulement 10 ans. J'ai vu au moins 40 ans devant moi,
ouais.
Grand chemin. So what ?
Mais...
So what ? Donc là, je me dis, bon, il y a plusieurs possibilités. Bon, déjà, j'écris. Normalement, j'aurais dû avoir un projet d'écriture de livre à ce moment-là, qui ne s'est pas totalement réalisé. Soit bah, je repasse un examen pour être prof de français ou autre au lycée ou au collège ou autre.
Enfin, ouais, grosse remise en question.
Bah, et... En fait, retour à ce que j'aimais vraiment déjà, mmh. Parce que ce que j'aime, c'est écrire et... Enfin, j'ai jamais bougé de ça.
Ouais.
Mais comment je transforme, comment je continue, parce que so what, je dois continuer à vivre. Mais en tout cas, ouais, je fais quoi ? C'est pas pareil qu'être salarié, quelque part, parce que quand t'es salarié, tu sors, c'est dur, mais tu peux avoir accès à plein de trucs de formation, prise en charge et tout. Là, t'es à ton compte, du jour au lendemain, c'est...
Ouais.
Waouh, et ouais, et comment et pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait en fait, en gros, je comprends pas quoi.
Mais est-ce que tu penses que t'aurais pu au contraire aussi switcher en disant bah non, je vaux toujours quelque chose, bah, je suis là les gars.
C'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais bon, je veux dire, il y a 5-6 ans, personne, tu vois, tout le monde disait non, mais attends, ça va, c'est bon. Enfin, t'es gentil, mais t'es intéressé aux femmes de ton âge, pourquoi faire quoi. Parce que moi j'ai dit, mais il se passe quand même quelque chose, juste ce que je venais de vivre. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait. Mais vous nous arrêtez aux millennials. Mais après ça, il y a...
Oui.
Et puis autre chose que dégénérescence, carence, mature, anti-âge. Enfin, autre chose que ce que tu nous montres. Enfin, oui. Merde. Et, enfin, donc, prise de pas de colère, mais d'amour, finalement, pour cette période que j'allais... D'abord, j'ai beaucoup pleuré, hein, oui. Mais j'ai pleuré pour plein de choses. Évidemment, c'était lié à la ménopause, enfin, ces hormones hein, qui se chahutent, mais aussi le retour sur la vie. Et puis, comment tu fais pour, non pas pour égayer tout ça, mais pour éclairer tout ça et pour dessiner ce nouveau champ. C'est ce que j'ai beaucoup écrit, en fait. Mmh. Qu'est-ce que je fais, comment, et où je pars, sur quoi je m'appuie, qui a écrit sur le sujet ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me rends compte que c'est néant.
Ouais.
C'est néant. À part des guides pratiques que tu vois là, si tu regardes, genre la ménopause sans les kilos, ménopause avec sans les médicaments, c'est tout ce qui est phyto, machin et tout, que du guide pratique sur une littérature, sur la femme qui raconte, sur... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et là, je me dis, ben, en fait, je vais écrire. Parce que moi, je vois beaucoup de choses. Enfin, j'entends pas de son, j'entends pas d'image. J'entends une transmission qui ne se fait pas, de mère en fille. Mmh. J'entends beaucoup de moqueries sur les bouffées de chaleur, beaucoup de dénigrement, de l'agisme. Je vois tout ça. Des images qui ne sortent pas. À l'époque encore, il y avait les femmes au cinéma. Les rôles pour ces femmes-là ne se font pas. La femme à 50 ans, elle sort du champ. Tu la retrouves à 60, 65 quand elle joue le rôle de grand-mère. Entre-temps, t'as l'impression qu'elle n'a plus d'existence.
C'est vrai.
Dans les abribus, tu ne vois pas. Maintenant, tu commences. C'est seulement maintenant. Mais il n'y avait que dalle. Et là, je me suis dit, mais comment je fais pour sentir, chercher parce que pour moi, c'était ça. Sentir, ce n'est pas que du symptôme. C'était sentir, chercher, être dans la vie, s'habiller, se nourrir, plein de choses. La preuve, la ménopause, ok, c'est un phénomène naturel, c'est interne, mais ça se voit aussi. T'as la peau qui commence à... c'est pas les rides, là, c'est la peau qui s'assèche, etc. Une physionomie qui peut bouger, etc. Donc, elle se voit autant et elle est perçue autour. Donc, je me suis dit, non, la façon dont elle est posée, pour moi, c'était pas juste.
Ouais.
Donc ça, ça a occupé plus d'un an, et demi de ma vie. Où j'ai pris je dis petites parce que c'est mignon par rapport à ce que je faisais avant, c'était des clients de petite taille, mais super adorables, histoire d'avoir vraiment le minimum parce qu'il fallait quand même que je paye les factures de base.
Ouais.
et à ne faire que chercher sur mes cahiers, quoi.
Et là, t'es encore en transition, toi, t'es pas ménopausée
Bah alors là, je pensais l'être. Déjà, à force d'écrire sur la ménopause, pour moi, je suis en ménopause. Et là, j'ai eu la curiosité de les voir revenir. Bon, ça faisait déjà pas mal de mois que je les avais plus, donc pour moi, c'était fini un peu. Et puis là, je suis allée faire le bilan urétro, machin, là, pour voir où j'en étais au niveau du périnée, etc. Et le lendemain, mais alors 10 jours de saignement non-stop. Donc j'ai réappelé la kiné, elle m'a dit « Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas, de toute façon, t'y es, mais pas complètement. » Alors que sur le bilan, on m'avait dit « Ça y est, c'est terminé. » Donc, il y avait encore un petit reste quelque part, mais quand même. Enfin, là, je vais avoir 54 ans. Je pense que, globalement, je suis sur le chemin quand même. Hein, dire, voilà.
Parce que quand t'as la ménopause, t'as ces saignements ?
Non, quand t'as la ménopause, c'est fini.
Oui, mais t'as pas une phase où t'as 10 jours de saignement et après t'es en ménopause.
Ah bah non, bah, ça peut arriver. C'est-à-dire que si tu veux, normalement, tu as la ménopause, je t'explique. Tu as un jour tes règles, il faut que tu attendes un an, 12 mois avérés sans règles pour être déclaré en ménopause.
D'accord.
Ensuite, tu passes en post-ménopause. Donc là, comme j'ai eu les règles pendant encore 10 jours, il faut que j'attende encore un an. Si pour tenter, dans 2 mois, j'ai encore mes règles, bah, ça requerra un an en plus.
Ok.
Alors moi, j'étais sûre d'être ménopausée, donc moi, c'est ça y est. Curiosité de la nature, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, elle s'accroche. J'étais là, mais les meufs, parce qu'en plus, le pire, c'est que je ne les attends pas, forcément, moi, tu vois. Déjà, j'écris sur la ménopause en permanence, je suis dans ma tête déjà tellement ménopausée et libre, que oui, moi, pour moi, et elles s'étaient arrêtées, quoi. Donc, elles se sont arrêtées, elles m'ont fait le jeu de chameau comme ça, assez drôlement, parce qu'à partir, quand j'ai écrit le bouquin, le jour où j'ai commencé à écrire, jusqu'au moment où j'ai reçu mes épreuves, enfin, tu vois, et où le livre est sorti, enfin, ça a mis quelques bons mois, tout s'est arrêté. Quand j'ai reçu les épreuves pour correction, c'est venu pareil, 10 jours non-stop. Donc, je me suis dit, je comprends pas. L'année d'avant, ça avait été à peu près pareil. À chaque fois, elles refont des petites jumps comme ça.
Ouais.
Et en général, c'est sur des périodes de 6, 8, 9 mois. Donc, moi, dans ma tête, ça y est terminé et pas.
Elles se foutent
de ma gueule.
Elles te font des blagues.
Elles me font des blagues, elles s'accrochent et tout. Je dis, c'est dingue. Alors non, j'ai pas de bouffée de chaleur, j'ai de la chance, mais j'ai des sueurs nocturnes. À côté de la première ménopause que j'ai rencontrée, en fait, comme j'ai déjà été avertie globalement, j'ai beaucoup moins de symptômes. Hein, je dois dire, franchement, honnêtement, c'est super facile, entre guillemets. J'ai quand même une petite sécheresse, ouais, quand même, mais c'est vraiment pas énorme. En revanche, ce que j'ai, c'est des douleurs articulaires de la mort qui tue. La physionomie qui a bougé, ouais, je le sens. Sans prendre de poids, mais la physionomie, ouais, qui bouge. L'humeur, la fatigue, le cognitif, parce que c'est doré. Il y a des moments, je suis avec les post-it, je ne sais plus où je suis. Ouais, grosse fatigue, insomnie, quoi. Enfin, tous ces trucs-là, ouais, je les ai, ouais. Donc ça, c'est chiant, ouais.
Et alors, qu'est-ce que tu as découvert sur la ménopause dans toutes ces recherches, en résumé, mais que tu ne connaissais pas
Je ne connaissais rien déjà, donc comme
oui,
je partais
déjà,
de zéro,
oui,
j'ai découvert 70 000 trucs. J'ai découvert qu'il faut aller bien au-delà du symptôme, parce que ce n'est pas une histoire de symptôme. Comme je dis, pour moi, c'est une histoire d'une nouvelle féminité, d'un nouveau chapitre qui s'ouvre. J'ai découvert mon féminin au moment de la ménopause. C'est ça qui est dingue.
Ouais.
Parce que je me suis rendu compte que à chaque fois que j'allais voir, finalement, à chaque fois ce que je raconte, à chaque fois que je me rends compte là en te parlant, quand j'allais chez le gynéco ou tout ça, c'était toujours empreint de peur. Et la peur de tomber enceinte, et la peur de ci, la peur de ça. Et jamais dans la compréhension de ce qu'était mon corps, de ce qui se passait, de l'hormone, j'en avais jamais entendu parler. Quand le gynécologue te parle de te mettre sous progestatif, sous ci, sous ça. Enfin, globalement, à moins d'avoir été formée, de savoir ce que c'est, t'en sais que dalle.
Oui.
Je savais pas vraiment, j'avais pas vraiment compris les cycles. Enfin, j'avais pas mis des mots sur tout le fonctionnement et sur qui j'étais. Voilà, ce que c'était que le féminin. La ménopause, ça m'a aidé vraiment déjà à prendre rendez-vous avec ce féminin. C'est pas rien.
Mais non.
J'aurais aimé le faire beaucoup plus jeune, avec des termes beaux et rassurants, parce que c'est magnifique. Parce qu'en fait, quand on comprend comment le cycle fonctionne, comment le corps fonctionne, ce à quoi servent les hormones, ben tu te dis, putain, on est des vraies machines de guerre, c'est du délire total. Enfin, là, tu te dis, magique. Enfin, franchement, voilà. Et j'aurais eu cette même magie que quand j'ai été enceinte et que quand j'ai vu mon fils naître et que j'ai vu que à partir finalement de rien, d'un moment et d'une rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, on faisait un être humain. Là, moi, j'en suis jamais revenue. Je pense que c'est ce qui me fascine avec la naissance. Mais ça, c'est quand même putain, la beauté, la magie du corps humain, quoi. Enfin, et de l'espèce, je veux dire. Ça, c'est phénoménal. Donc ça, j'ai appris avec la ménopause. La deuxième chose que j'ai apprise aussi, c'est du coup la liberté de m'envisager autrement. Et la liberté de m'envisager, mais tellement heureuse, de ne pas avoir peur d'être enceinte. Donc libre.
Oui.
Vraiment libre. Libre et sans injonction pour moi. C'est-à-dire que, pour une fois, on m'attendait plus sur tu dois faire un enfant, tu dois te marier, tu dois rentrer dans les cases, tu dois nanana, tu dois répondre à ci. Là, d'un coup, j'avais quand même fait un certain nombre de choses. Ça me fait dire autre chose derrière, que la ménopause pour moi est une chance quand elle arrive au bon âge. Je vais dire ça après. Mais en tout cas, là, ouais, c'était la liberté d'être vraiment moi-même à jouer maintenant tout mon terrain de jeu comme j'en avais envie. Parce que je me suis dit, bah, finalement, avant que la naissance de ma cousine, quand j'avais 8 ans, même si je m'intéressais au phénomène de la naissance, parce qu'au moment où j'ai eu ma petite sœur, j'étais une petite fille avec son corps de petite fille et ses histoires de petite fille inconsciente, quoi, quelque part. Et jusqu'au moment où je deviens femme et où là, bah, quand même, pendant 40 ans, on attend beaucoup de choses de toi. Là, je me suis dit, ménopause, on n'attend plus rien.
Ouais.
Tu peux faire tout ce que tu veux. Que ce soit des conneries, de teindre les cheveux. Enfin, finalement, éclate-toi. Il n'y a plus d'attente. Donc, c'est un peu la liberté. La troisième chose, oui, que j'ai appris, c'est que la ménopause est une chance. Quand tu as la chance de l'avoir à l'âge médian, 51 ans. Quelles que soient les fluctuations que tu puisses avoir, c'est une évolution, un phénomène naturel, une évolution, et tu as la chance de la vivre. Donc je dis ça parce que, bah, d'une part, ça veut dire que je suis en vie, parce que j'ai déjà perdu des amis jeunes.
Ouais.
La deuxième chose, c'est que j'ai la chance de l'avoir à un âge médian normal. Enfin, là, maintenant, je suis même 54, alors moi, j'ai carrément de la chance. Parce qu'il y a des femmes qui l'ont beaucoup plus jeune, ça s'appelle l'insuffisance ovarienne prématurée, qu'on appelle ménopause précoce. Voilà, c'est une pathologie là, dans ces cas-là. Je me dis à 30 ans, c'est une sacrée saloperie, c'est une pathologie. Donc avoir la ménopause à mon âge, c'est une très grande chance. Enfin, je suis pleine de gratitude d'avoir eu le temps finalement de vivre tout ça. La notion du temps est importante. C'est aussi une chance parce que là, tu te rends compte et c'est assez bizarre. Et pourtant, quand je te disais tout à l'heure que j'avais l'impression d'avoir un grand champ blanc vide et que je voyais rien devant, oui, parce que rien n'était parsemé, t'as quand même la notion que le temps se rétrécit. Et pourtant, tu peux mourir à n'importe quel jour, donc tu sais jamais ce qui va se passer. Mais là, je me suis dit, ouais, gère tes priorités. Gère tes priorités, ma fille, parce que... Bah, tu sais pas, voilà, ce qui va se passer. Moi, j'ai jamais eu la notion que ce serait la fin de ma vie sexuelle, que ce serait la fin de ma vie de femme, que ce serait ci, ça. Mais le regard ambiant fait que tu es obligé de te poser quand même toutes ces questions-là. En tout cas, de lutter contre ces idées-là. Et la dernière chance, parce que ouais, comme finalement, je me place quand même plutôt sur le côté de la chance, du gain que de la perte. J'ai pas l'impression d'avoir perdu grand-chose parce que, comme j'ai jamais été une nana, je suis ronde. Donc, je suis jamais rentrée dans les normes. Donc, j'ai jamais dû, enfin, je dirais, perdre un corps galbé, fuselé, machin, tout ça, ça a jamais... Enfin, oui, je suis galbée, fuselée, tout ce que tu veux. Mais c'est pas... j'étais pas dans les normes. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir une perte folle, phénoménale. Je me suis pas dit, putain, ça y est, on me regardera plus, je rentrerai plus dans mon 36. Alors, en fait... Le 36, je suis rentrée la dernière fois quand j'étais justement en ce moment de CM2, 6e, au moment de mes règles. Mais après, ça n'a plus été possible du tout. Donc du coup, j'ai pas ce genre de réflexion-là par rapport au corps, mais ça m'amène à beaucoup de réflexions sur le corps, sur le parcours, sur l'injonction. Ouais, en fait, je m'interroge vraiment sur qu'est-ce qui s'est passé avant et comment je continue la suite. C'est surtout ça, donc c'est un sacré rendez-vous. J'ai pas fini d'écrire, c'est certain. Donc, c'est impressionnant ce que ça a ouvert chez moi comme récepteur, quoi. Enfin, c'est fou, je me l'explique pas encore.
Et c'est génial, parce qu'aujourd'hui, tu fais des conférences, tu as écrit un livre, donc tu apportes cette méconnaissance sur le sujet à beaucoup de femmes.
Ouais.
C'est quand même une sacrée mission.
Ouais, c'est finalement. Beau. C'est beau parce que j'ai une super communauté. Je les adore. Elles m'écrivent beaucoup. On se parle beaucoup, vraiment. Il n'y a pas de faux semblants. Vraiment. Elles sont canons.
C'est quoi leur questionnement? Est-ce qu'elles ont les mêmes que toi au moment où ça t'est arrivé?
Oui, beaucoup. Mais il y a beaucoup... Le premier truc, c'est... Donc, d'abord, elles sont en panique. Elles ne savent pas forcément reconnaître les choses. Mm. C'est normal. Hein, moi, je ne savais pas. Il n'y a rien. Donc, oui. Mais c'est comment faire? Comment parler avec le gynéco? Comment comprendre? Est-ce que je prends le traitement hormonal ou pas? Beaucoup. Prise de poids, beaucoup. Perception du corps qui change, ouais. Donc, beaucoup. Est-ce que tu as une solution à bouffée de chaleur, tout ça, machin. Donc, on est quand même toujours beaucoup dans la... recherche de solutions immédiates, donc ouais. Très travaux pratiques, enfin guide pratique, et dans la méconnaissance ouais, de ce qui se passe et dans la peur et l'angoisse. Et c'est logique, hein, moi j'étais comme ça. Je dis pas que je suis pas angoissée encore, justement par le fait de me dire, en étant à mon compte, est-ce que je vais réussir à bosser comme ça jusqu'à 67, 70 ans? Enfin, on a besoin de travailler tard, et de toute façon, moi je suis contente parce que pour moi, travailler c'est justement. Continuer à m'occuper de ma plasticité neuronale et puis à être en lien, j'espère ne jamais arrêter en fait.
Oui.
Donc je ne m'étais pas dans ma tête dit, ok, je me mets le mot retraite, pour moi, à part retraite de yoga ou autre, le retrait ne fait pas partie de ma vision. Donc déjà ça.
Est-ce que justement le fait d'avoir switché, là tu t'es investi dans, je mets des guillemets, mais dans cette mission pour la ménopause? Ça t'a aussi montré qu'il y avait d'autres champs des possibles.
Ah bah tout le champ est ouvert. Là, ce qui est surtout fou, c'est que comme rien n'est fait, justement, c'est vrai, j'avais raison, c'était un champ blanc. Une énorme page blanche. Et où tout est à faire complètement. Début, je peux te dire, j'ai flippé. Quand j'ai lancé le compte, au début, j'étais vraiment mal. Je me suis dit, bon, là, je dis publiquement, ben voilà ce qui se passe. J'aurais plus jamais de boulot, c'était sûr. En tout cas, je me suis dit, c'est terminé. J'avais lâché prise. Là, c'était terminé. En tout cas, ma vie passée, pour moi, je le pensais, c'était fini. C'est pas fini du tout. Et je me suis dit, waouh, comment faire pour affronter les regards, de dire, voilà ce qui se passe, parce que je parlais quand même d'une expérience dure. Je partais de moi. Cette rencontre avec la ménopause artificielle assez trash, assez dure, et puis tous ces questionnements, donc je me suis dit, mon Dieu, parler intimement comme ça, comme je l'avais jamais fait, un tabou, parce que là d'un coup c'était ça aussi, c'est une langue qui n'est plus médicale mais qui vient de l'ordre du féminin, donc de l'intime, du ressenti, et te mettre ton intime en public, okay, intime, extime, enfin tout ce truc là tu dis, je vais me recevoir des tomates dans la gueule, tout le monde va dire, la vieille dégage de là, enfin, ça va, tu me fais chier, là. Clairement, t'es plus millennials, maintenant, va pleurer ailleurs. Ça s'est pas passé comme ça du tout, mais j'avais ces craintes-là. Ouais.
Comme tu dis, là, la société, c'est un petit peu en train de changer, on en parle de plus en plus.
Ça commence.
Ouais, tu sens vraiment, là, que...
Ah bah, en 3 ans, au moment où j'étais la première à poser un mot, j'étais la première à poser un mot de cette façon-là. Je vais être très juste. Il y a une femme que j'aime énormément qui s'appelle Ariane Pardé, qui avait créé un compte qui s'appelle La-Ménopause, peut-être 6 mois, 1 an avant, plus jeune que moi, mais parce qu'elle, sa maman, avait eu une ménopause difficile. Donc, elle a vu vraiment la difficulté. Et donc, c'est un compte très médical, très chiffres, clés. Voilà, pour informer, notamment sur le traitement hormonal, etc. Mais c'est une battante, c'est vraiment une fille qui source bien, etc. Donc elle avait commencé comme ça. Moi, j'étais vraiment la seule à aborder ça d'une façon féminine, je dirais, joyeuse, vibrante, décomplexée, débridée, intime. Ouais, voilà. Intime.
Oui, la place de la femme à partir de la ménopause.
Qu'est-ce que la ménopause? En fait, qu'est-ce que tu vis? Et pour moi, comme elle était vraiment at large, c'était pas qu'un phénomène de symptômes. Ça touchait l'intégralité de la femme que j'étais. J'ai pas du tout cette vision de cette ménopause symptomatologique. Enfin, symptomatique plutôt, c'est pas du tout ma vision et ça restera pas ma vision jusqu'au bout. Voilà. Là-dessus, j'ai compris que j'étais assez unique, unique, puisqu'il y a même des femmes à l'étranger qui m'écrivent des États-Unis et tout, pour me dire que c'est unique quoi, au monde, cette façon de voir. Ouais.
Ouais.
Ouais. Donc là, ça me laisse tout le champ des possibles. Après, je te dis. Ça m'a appris pas mal d'humilité parce que tu ne sais pas, il y a eu le Covid, hein, parce que j'ai lancé le compte juste avant le Covid. Vraiment juste avant, quoi. On y était déjà, je ne savais pas. Il y a l'humilité de se dire chaque jour suffit sa peine. Cette pandémie nous a appris beaucoup. Je pense qu'on n'a pas encore tiré les leçons du truc. Plus là, ce qu'on vit tous là maintenant, de te dire comment on fait pour vraiment accompagner la femme. Alors, accompagner, est-ce que c'est le juste mot ? Oui, en tout cas, l'informer. Parce qu'accompagner, ça veut dire qu'elle serait malade, qu'elle serait... Voilà, mais en tout cas, la...
Bah, lui redonner sa place.
Lui redonner sa place, lui permettre, d'être bien à sa place, pour qu'elle soit bien avec elle-même. Il y a beaucoup de choses à faire. Et comment faire tout ça, quoi ? Voilà, c'est la question.
Comment t'expliques, justement, il y ait cet intérêt qui revient pour les femmes ménopausées
Alors,
dans les magazines,
je me demande si je ne suis pas un peu pour quelque chose. Hein.
Ouais.
Ouais. Quand j'ai commencé, moi, à m'interroger et à écrire mes cahiers, pour tout te dire, donc finalement, j'ai commencé au moment de MeToo, un peu avant, tu vois, c'est arrivé à ce moment-là. Et j'ai vu donc des comptes type SPM, règles élémentaires, tout ça, toutes ces filles arriver vraiment. Hyper engagée. Et je me suis dit, waouh, la jeune génération, mais elles sont canon, les mômes. Je dis les mômes, mais moi, je me sentais comme elles, en fait.
Oui.
Donc, et je me suis dit, mais là, nous, on est en train de vivre quelque chose aussi, donc c'est pas la fin, c'est la continuité. C'est la continuité, hein. Pas une fin. Et je voyais notamment un livre que j'ai là, c'est... je ne me souviens plus du titre, mais... Vagin tonique ou quelque chose comme ça, qui termine la dernière page sur la ménopause. T'as que deux pages ou une page et il n'y a plus rien à dire. Et en fait, ça m'a fait tellement mal. Enfin, je me suis dit, putain, merde. Enfin, tout le monde nous annonce notre mort partout. Mmh. Comme s'il n'y avait, putain, plus rien. Et j'explique le fait qu'on reprenne la parole, parce qu'à partir du moment où il y a... les journalistes reprennent la parole et les médias sont en train de changer parce que c'est une prise de conscience, je pense, en plus mondiale que nous, femmes de 50 ans, maintenant, on n'est plus dans la même prérogative que les femmes, même il y a encore 10-15 ans avant. L'espérance de vie allonge, s'est allongée, on est de plus en plus... Enfin, on a le mort aux dents, quoi. Mmh. On n'a pas envie de s'arrêter là. Donc, du coup, je pense qu'on se l'offre. On a envie de s'offrir cette permission de continuer à vivre comme on en a envie. Et les journalistes avaient beaucoup de mal avec cette notion-là, puisqu'on commence à aborder le non-jeunisme. On n'est plus dans le jeune, on n'est plus dans le glam, on n'est plus dans la lumière, le glow, etc. Mmh. Comment faire avec cette histoire ? À partir du moment peut-être où j'ai exprimé une voix et d'autres ont commencé aussi, elles se sont dit, il y a quelque chose, peut-être.
Oui.
Enfin, j'ose l'interrogation. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que c'est ça.
Ouais, oui, on voit de plus en plus de femmes posées justement dans les magazines.
Oui.
Cheveux blancs, etc.
Alors, il y a eu aussi évidemment Sophie Fontanelle, bien entendu, oui, avec une apparition et puis avec vraiment cette prise de position très forte, cet empowerment. Voilà, parce que c'est-à-dire qu'on est. Il y a vraiment. Là, je parlais vraiment de la ménopause, parce que moi, j'ai ce parti pris ménopause, mais c'est donc une congruence, quoi, je veux dire, de femmes qui disent non, mais ça va, existe, ouais, là, ouais. Vous en êtes où, là, vous n'avez pas compris. Sophie Fontanelle en tête, genre, je veux dire, elle est forte, elle y va, quoi. Sophie Fontanelle est plus âgée que moi, un peu, donc c'est un peu une grande sœur, pour moi. J'ai été d'ailleurs vachement encouragée par Sophie Fontanelle quand j'ai lu une apparition parce que. Moi, je me posais les mêmes questions qu'elle au niveau de la couleur, de la lumière, de plein de choses. Et c'est là où je me suis dit, je suis pas la seule, en fait. Et je suis pas la seule, donc, à avoir cette période de vie en dehors du symptôme, à tenter de lui donner une esthétisation. de dédramatiser et de donner plutôt quelque chose de beau, parce que la vie, c'est beau. Hein. Ouais.
Ah oui.
Il n'y a rien qui s'arrête, quoi, merde.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
La maternité, bah, ça a tout changé. Là, pour le coup, c'est l'amour inconditionnel. Inconditionnel, c'est impressionnant. Le truc que j'avais jamais ressenti pour, je pense, pour personne, c'est que c'est très physique. Ça reste très physique. C'est-à-dire que quand mon fils a un problème ou autre, enfin, d'abord, je ressens tout. Et j'ai le corps qui est avant la tête, le corps qui est en action, quoi. Ouais. Je sais que je pourrais démolir des montagnes, tout écraser, essayer de faire Buzz l'éclair pour traverser l'Atlantique s'il était dans la merde. Mais je le sens déjà, quoi. Je sais pas comment dire, c'est super étrange. C'est une histoire de lien. Mmh. Où tu sens une force décuplée, c'est la lionne, quoi. C'est animal, mmh. La maternité. Enfin, je sais pas comment toi tu sens ça, mais c'est puissant. Hein. Y a pas plus puissant pour moi. Hein. J'ai jamais vu ça. Ouais.
Et tu en parles d'ailleurs à ton garçon de tout ce que tu fais
Alors, il a été là très au début. Ouais. Donc, d'ailleurs, ce matin, on parlait de la pilule, etc., pour les jeunes filles, enfin, tout ça. Il est hyper au courant, ouais. Mmh. Mais un peu moins parce que maintenant, depuis qu'il est vraiment rentré en adolescence, c'est un peu touchy. Enfin, il a lui-même ses phénomènes hormonaux, c'est pas évident. En plus, ils sont, eux, dans une période où le féminin, masculin, enfin, les frontières se redessinent complètement. C'est compliqué. Je pense qu'il en a ras-le-bol, clairement, de la ménopause, qui lui a un peu pris sa maman parce que ben, là, pour le coup, je suis à 100% dessus et je passe vraiment beaucoup plus de temps que ce que je faisais avant. Donc, c'est un peu, ouais, c'est un peu du vol, la ménopause, pour lui.
Mais c'était important pour toi de lui en parler en tant que... mère d'un garçon et...
Ça a été surtout super important, ouais, de lui raconter déjà le corps, mais de lui raconter surtout toutes les recherches que je faisais, toutes les découvertes qui me passionnaient, qui sont pas des découvertes, justement. Je parle pas de gynécologie 100%, non, c'est plutôt beaucoup des découvertes sur l'histoire, questionnement sur l'homme, la femme, la vision, la construction, le fait de continuer... finalement, j'ai beaucoup parlé avec lui et il m'a accompagnée sur mes recherches sur Charles de Gardanne, donc le médecin qui a créé ce mot en 1821, sur une recherche qui est palpitante et que j'ai pas terminée, donc j'ai encore beaucoup de choses à faire sur tout cet univers, en fait, sur les mots qu'on pose pas, sur les choses qu'on ressent. Je crois que je l'abordais quand même aussi de manière vraiment plus large, quoi. Ouais.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Yes.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Ah bah il y a deux points. C'est être une maman qui bénéficie de plein de trucs, genre les musées, tous les trucs cool. Mais c'est une maman qui n'a pas forcément accès comme il le faudrait à la nature.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris ?
Jardin d'acclimatation peut-être. Mmh. Il y a plus de... Ouais.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Rien que pour moi, c'est m'occuper de moi. Et urgemment, prendre le temps de prendre ce rendez-vous, d'entamer l'ouverture d'un nouveau cahier qui serait là rien que pour moi et prendre soin de mon corps. Vraiment, ouais. Là, j'ai ces douleurs articulaires, tout ça, machin. Il faut que vraiment je prenne le temps de faire du sport tous les jours, sans culpabiliser parce que j'écris pas à ma communauté, parce que, enfin, voilà, ça, ouais, urgent. En famille, bah, ça va être de passer des bons moments pendant les vacances de la Toussaint. On sait pas où encore, mais on va être ensemble.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci à toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.